Radio Canu vous présente dans la série radiophonique de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Avant d'aller à la gare, il est allé prendre Sylvain. Vu le bagage qu'il avait, cela l'a soulagé car il avait peur que son ami se moque de tout ce qu'il prenne. Puis, ils ont pris le train. Le voyage se passe gaiement, sans histoire. Arrivés à Genève, ils ont pris un fiacre pour le petit village de montagne qui se trouve à quelques kilomètres de Genève. C'est l'été, il fait un temps magnifique. Ciel bleu, les prés sont pleins de fleurs, quelques montagnes ont des cimes enneigées. Le petit village se trouve à 1800 mètres, il est fait de quelques maisons à ras la montagne. Ces maisons sont des chalets coquets et fleuris. Au centre du village se trouve la place avec ses fontaines, sa fontaine fleurie, sa petite église, la mairie, le café, restaurant, hôtel et son épicerie. Les jeunes gens sont émerveillés par ce petit village de cartes postales, car même les habitants sont habillés de leur costume traditionnel à vives couleurs, du rouge, du vert, du bleu. Je le dis, on se croirait dans un décor d'opérette. Je me demandais où se trouvait le chalet qui s'appelle les Névées. Le chalet se trouve un peu en retrait des autres et côté vallée, il a un étage et de taille moyenne. Le fiacre s'arrête devant l'entrée. Où une jeune fille d'une vingtaine d'années et un homme de 50 ans. La jeune fille est grande, mince, blonde, délicieuse. L'homme est grand, fort, à un côté jovial. Julie et Sylvain descendent de fiacre. La jeune fille et l'homme accourent vers eux. L'homme leur dit :
Bonjour monsieur, je suis le propriétaire du chalet. Je m'appelle Jacquet Yvan. Et là, c'est ma fille Marinette. J'espère que vous avez fait bon voyage.
Je lui réponds :
Oui, je vous remercie, monsieur Jacquet. Je suis le fils de monsieur Bonmandin, Jules, et voici mon ami qui va habiter avec moi, monsieur Sylvain Dupin.
Monsieur, je vais vous faire visiter le chalet.
Et il se dirige vers le chalet. Le cocher prend les bagages pour les mener à la maison.
Thank you.
L'intérieur du chalet a les murs en pierre apparente avec des frises de bois. Le plafond est fait de poutres. Les meubles sont de style rustique en bois. Il y a aux fenêtres des rideaux rouges. Petit hall d'entrée avec à droite une cuisine, à gauche la salle à manger, coin salon. Escalier de bois pour monter aux étages. Petit couloir et deux chambres avec cabinet de toilette. Les lits ont de gros égrenons rouges. Tout est propre et ça sent la cire. Une fois que la visite est faite, tous se retrouvent dans la salle à manger. Le propriétaire demande à Jules « Est-ce que cela vous plaît ?»«
Oui, merci, tout est parfait. »«
Bien, j'en suis très heureux. » Ma fille viendra vous faire les repas et le ménage tous les jours. C'est compris dans le prix du loyer.
Merci.
Bien, je vais vous laisser vous reposer et ma fille va commencer à ranger vos affaires et préparer votre repas. Au revoir, messieurs.
Au revoir.
Une fois qu'il est parti...
La fille reste là et demande « Bon, eh bien, je vais ranger mes affaires alors. »«
Oui, bien sûr. »
Et la vie s'organise. Levé à 8 heures, petit déjeuner, courrier, repas, déjeuner à 13 heures, petite promenade, repos, dîner, soirée à lire et coucher.
Marinette est très discrète et les deux jeunes gens ne font pas attention à sa présence. Tout se passe très bien, il fait beau, tout est calme.
Jules est heureux, il vit près de Sylvain dans son intimité discrète. Il ne fait rien pour l'effaroucher. Il le regarde sans appuyer et ne se met pas constamment contre lui. Le savoir dans la maison lui suffit.
Leur arrive de passer de longs moments sans parler, sans que cela ne les gêne, et des fois passent des heures dans les discussions philosophiques. Il est vrai que le paysage favorise ce genre de discussion.
Les jours durant, Sylvain, forci, prend des couleurs et moins fatigué. Un après-midi, ils sont assis tous deux dans un fauteuil, l'un en face de l'autre, devant la fenêtre. Sylvain est endormi, Jules lit Le Lys dans la vallée de Balzac. Il aime ce livre, c'est son roman préféré. Il trouve que Balzac est un grand écrivain. En une phrase, il nous fait voir toute la beauté de l'Anjou. L'histoire de cette femme, mère de famille, qui se met à aimer d'une façon pure un jeune homme qui pourrait être son fils est très touchante. Pourtant, surtout qu'elle lutte contre cet amour pour rester fidèle à son mari. Jules a lu plus de 10 fois ce roman et le relit avec autant de plaisir. Il lève la tête de son livre et voit Sylvain endormi, la tête légèrement inclinée du côté gauche. Elle repose sur une de ses mains. L'autre main est sur sa poitrine. Les jambes légèrement repliées. Son visage est illuminé par les rayons de soleil et ses cheveux fins jouent avec la lumière. Il dort profondément et Jules a l'impression d'entrer dans son intimité. Dans le profond de son sommeil, il ne sait qu'il est regardé. Tout son corps est abandonné d'une façon pure et confiante. Jules en est ému jusqu'aux larmes et le trouve si beau, si pur. Si pur. Il se dit, l'on dirait un ange, un merveilleux petit ange. Il a envie de pleurer, comme à chaque fois qu'il voit quelque chose de très beau. La beauté lui fait mal, mais celle-là lui fait encore plus mal, car il désire avoir cette beauté, la toucher, la sentir, la brasser, l'embrasser, la tenir dans ses bras. Ce n'est pas comme un tableau
une statue, un paysage ou un beau livre. C'est un être vivant que l'on désire. Jules souffre en regardant Sylvain, car il est conscient que cette beauté est périssable, qu'elle vieillit, s'effrite, meurt, qu'elle est éphémère. Ce n'est pas comme un beau tableau qui peut rester beau 500 ans ou plus. Cela lui fait mal. Il a encore plus envie d'aimer Sylvain. Il a tellement envie qu'il veut le toucher. Oui, le caresser, être tout près de lui. Une fois, l'avoir dans ses bras. Il se lève et se penche vers lui. Tout près, délicatement. Sylvain se réveille, voit Jules penché contre lui. Il lui demande « Que se passe-t-il ?» Jules se redresse. « Rien, tu dormais ?» Sylvain sourit et lui dit « J'ai bien dormi ?» Jules sourit et lui dit « Oui, comme un ange. » Sylvain hausse les épaules et lui dit « Arrête !» Un après-midi qui se promène dans les prés, il fait très chaud. Ils ont retourné leurs manches de chemise blanche. Tout à coup, Sylvain se met à crier. Aïe ! Jules va vers lui et lui demande. Qu'est-ce que tu as ? Je vais me faire piquer par un insecte au bras. Fais voir. Il lui montre son bras et Jules voit une piqûre rouge. Tu vois, c'est un insecte qui a dû te piquer. Assieds-toi dans l'herbe. Je vais voir ce qu'il y a, s'il n'y a pas un dard à l'intérieur. Sylvain s'assoit dans l'herbe, Jules se met à côté et lui prend le bras. Il y a dans ses mains un bras doux et délicat, comme celui d'un enfant. Cela l'émeut beaucoup. Avec ses deux doigts, il pince la piqûre. Cela fait mal à Sylvain, qui fait la grimace. Je lui demande, c'est si douloureux que ça ? Un peu, oui. Jules sort son couteau, agrandit la piqûre, puis pince pour en sortir le dard. Voilà, c'est fait. Merci. Sylvain est tout rouge. Je lui demande. T'as eu si mal ? Sylvain lui répond. J'ai eu un peu peur. C'était à cause du canifle. Jules prend son mouchoir et lui fait un pansement. Avec. Juste pour quelques gouttes. Après, ça cicatrisa très vite. Jules est heureux. Il vient de soigner son ami. Et en plus, il a pu le toucher. Il se dit, j'aurais pu le sucer pour lui enlever le dard. J'ai pas osé. Tant pis. Sylvain se lève et lui dit, on continue à marcher. Jules se lève. Au fil des jours, malgré Sylvain qui ne se rencontre de rien, leurs vies deviennent de plus en plus intimes. Jules sait ce qu'aime manger Sylvain, la façon qu'il a de ne manger que la mie de pain et de laisser la croûte. Comme Jules a la croûte, Sylvain la lui laisse. Il sait à quel moment il fait la sieste l'après-midi et quand il se lave. Jules, elle, l'aide de quelques petites choses, lui range sa cravate, lui prépare ses médicaments, lui donne un vêtement supplémentaire lorsqu'il fait plus frais. Il lui arrive souvent, lorsqu'ils sont en promenade, que Jules l'aide à marcher en lui tendant le bras. De tout cela et de beaucoup d'autres choses qui seraient fastidieux de décrire, Sylvain trouve normal ces choses et ne les remarque pas. Un après-midi, après la promenade, Sylvain a eu mal au dos, alors il a demandé à Jules de le lui masser. Il est allé s'allonger sur le lit, dans sa chambre, et Jules l'a massé. Depuis, il le fait tous les jours, car Sylvain dit que ça lui fait du bien. Jules voit que Marinette fait les yeux doux à Sylvain. Lorsqu'ils sont dans le séjour et qu'elle est poussette, elle jette furtivement un regard vers Sylvain. Cela le fait sourire et fait de l'œil à Jules, qui, malgré tout, est inquiet. L'été a passé très vite. Il fait plus frais, les jours raccourcissent et il pleut souvent. Les cimes des montagnes sont enneigées. Il reste plus souvent enfermé dans le chalet à lire, jouer aux dames au coin du feu. Un après-midi, Sylvain demande à Jules « Pourquoi est-ce que tu n'écris plus ?» Jules soupire et lui dit « Parce que j'ai l'impression d'avoir tout écrit. Chaque fois que je veux commencer une scène, je me dis que j'ai déjà écrite. C'est toujours la même chose. Ça m'énerve de raconter une histoire d'amour. Et je me dis, comme toujours, je vais la décrire toujours pareil. C'est toujours la même chose. Pour mes idées aussi, c'est la même chose. Je n'ai rien de nouveau. Ça m'énerve aussi de décrire des personnages, des décors. Je suis fatigué d'écrire. Parce que je n'ai rien à écrire, rien de nouveau. Il y a des jours où je me demande à quoi ça sert de se tourmenter à écrire. Personne ne t'oblige de le faire. Si tu arrêtais, personne ne le saurait. Je me sentirais mieux. J'aurais le cerveau tranquille. C'est pénible d'écrire. Ça fait mal. Puis la plupart des choses que j'ai écrites, je ne les aime pas. J'en ai honte. Sylvain lui dit, en fait, tu n'écris plus parce que tu n'as plus d'idée et que ça t'énerve. Oui. Et si tu n'écris plus, que feras-tu plus tard? Tu oublies, c'est que je peux enseigner l'histoire. Je resterai dans mon lycée, prof, petit bourgeois, quoi. Quelle misère, Sylvain lui dit, à moins que tu recommences à écrire. Je lui dis, il me faudra un sujet très fort, qui me plaise vraiment, quelque chose de nouveau, Sylvain lui dit. Quelque chose qui n'a jamais été écrit. Oui, mais quoi? Tout a été traité. De la chose la plus pure à la plus sombre. Et toi, comment vois-tu ton avenir? Moi, je ne sais pas. J'aimerais être chercheur en électricité. J'aimerais... C'est capter des images avec des ondes électriques et les reproduire plus loin. Jules sourit et lui dit, c'est du Jules Verne? Non, je crois que l'on peut faire un œil électrique qui transformait tout ce qui capte en ondes électriques et ces ondes iraient reproduire l'image animée sur un tableau plus loin, à des kilomètres plus loin. On pourra voir et peut-être entendre en même temps des choses qui se passent à des kilomètres. Je lui dis, mais la photographie animée commence à exister? Sylvain lui dit, oui, mais là, moi, ce sont des images de l'instant que l'on verra, pas des images plus ou moins plus tard, et puis elles seront mieux animées. Je lui demande, et tu crois que des gens seront intéressés à ce genre de choses pour te financer? Si ce n'est pas pour le moment, ce sera plus tard, oui. Car l'électricité va prendre une ampleur de plus en plus importante. Il y aura de plus en plus de machines qui vont en être équipées. Elle va transformer notre vie d'une façon considérable grâce à sa maniabilité et à sa vitesse. Elle va envoyer les ordres. Il fait de plus en plus froid et Sylvain tousse souvent. Les deux amis sortent presque plus. Le docteur du pays, qui est un petit homme gros, jovial, dans les 60 ans, à cheveux et barbe blanche, vient toutes les semaines examiner Sylvain dans sa chambre. Il n'y avait rien de grave, tout va bien. J'avais suffisamment pris de force cet été pour passer l'hiver. Restez au chaud, mais dès que le soleil se montre, sortez un peu. Mangez bien et buvez chaud. Un matin, Sylvain ne s'est pas levé. Après un moment, Jules va frapper à sa porte. Pas de réponse. Il entre dans la chambre. La chambre est dans la pénombre. Pas de bruit. Va vers le lit et trouve Sylvain couché, en sueur, le regard fiévreux. Tu es malade? Ça ne va pas? Je crois que j'ai de la fièvre. Jules lui touche le front et lui dit, oui, je vais faire venir le médecin. Et il sort de la chambre. Pour aller chercher le médecin chez lui. Il habite à 5 minutes. Une fois que le médecin l'a examiné, il dit à Jules, c'est pas grave, petite angine. Je lui procurerai des médicaments et du repos. Désormais, Jules passe ses journées à soigner Sylvain. Il le nourrit, le lave, lui donne ses médicaments. Malgré lui, Jules est heureux. Il a l'impression que son ami est à lui, qu'il lui appartient et qu'il ne peut rien faire sans lui. Sylvain se laisse laver dans le thé, dans une demi-conscience. Cela ne gêne pas que Jules le lave, qu'il le mène au WC, le fait manger. Jules a la main douce et efficace. Sylvain lui en est reconnaissant. Puis Jules est devenu son bébé, sa chose. Une semaine plus tard, il était au paradis pour Jules. Sylvain se sent mieux, il veut prendre son autonomie. Malgré lui, Jules est triste que Sylvain aille mieux, car il sait que bientôt, il n'aura plus besoin de lui. Ne pourra plus se permettre de le laver, de le toucher. Sylvain lui dit, je me suis suffisamment bien pour manger seul. Tu as été très bien avec moi. Je ne suis pas un infirme. Je saurais bien me laver. Cela fait mal à Jules. Un matin, Sylvain s'est levé et valide. Jules a mal malgré lui. Il se dit que ce qu'il a vécu ne le reverra plus. Malgré toute leur intimité, se sont renforcés. Sylvain ne sent plus gêné lorsque Jules le surprend en train de faire sa toilette ou s'habiller. Sylvain lui sourit souvent et lui demande « Ça va ?» Jules est heureux dans ces moments-là. Jules écrit une fois par mois à ses parents et à sa mère aussi. Elle lui écrit souvent qu'elle est inquiète et surprise que sa fille n'ait pas écrit donner de ses nouvelles.
« Nous lui écrivons, mais nous n'avons jamais de réponse. Je me demande si mon mari ne devrait pas aller voir ce qui se passe. » Mais lui n'ose pas y aller. Il dit que les jeunes mariés ont besoin d'intimité.
Jules dit à Sylvain l'inquiétude de ses parents pour Apolline. Sylvain lui dit « Elle doit être prise dans sa nouvelle vie. Ne vous faites pas de soucis pour elle. » Je lui demande
« Tu l'aimes encore ?»«
Non, plus.
Elle n'était pas faite pour moi. Moi, j'ai besoin d'une femme discrète au goût simple.
Un chercheur ne passe pas son temps dans les salons. Et une fille comme ta sœur aurait été malheureuse avec moi. »
Un matin, Jules, en ouvrant la porte du cabinet de toilette, il voit Sylvain, torse nu, embrasser la main de Marinette. Sylvain rougit, sourit à Jules. Marinette rougit et sort du cabinet.
Jules est furieux et en même temps il a mal. Il dit à Sylvain, je vais prendre mon autre colonne.
Il le prend sur l'étagère et sort pour aller dans sa chambre.
Et là, dans sa chambre, il fait 100 pas, furieux. La jalousie est entrée en lui. Il a mal que Sylvain ait embrassé une autre personne. Et qui sait, peut-être a-t-il fait plus. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Sylvain, Sylvain. Depuis combien de temps ils se voient? Ils cachaient bien leur jeu tous les deux. Je ne veux pas que Sylvain voie une autre personne que moi. Je ne le supporte pas. Tout ce que nous avons fait, vécu ensemble, soigné, lavé, tout. Non, c'est impossible. Impossible. Impossible.
Et une heure plus tard, il retrouve Sylvain assis à sa place habituelle près de la cheminée dans la pièce commune.
Il s'est assis dans un fauteuil à côté de lui et demande « Ça fait longtemps que tu la vois, la petite ?»
Sylvain ouvre les épaules et lui dit
« Je ne sais pas, puis je ne suis pas avec elle. Tu l'embrassais tout à l'heure, non ?»«
Oui. »
« Alors ?
Alors quoi ?
Il n'y a rien ?»
Jules dit en suppliant
« Je l'espère. »
Il ne s'est pas rendu compte de l'énormité de « Je l'espère. »
La chose a été dite.
Sylvain le regarde avec surprise et lui dit
« Comment, je ne comprends pas.
Tu n'as pas à me faire dire quoi que ce soit. Je suis libre de faire ce que je veux. Il n'y a aucun droit sur le banc. »
Jules a les larmes aux yeux et lui dit
« C'est ça. Moi qui t'ai soigné, aidé. »
Sylvain lui dit « Je t'en remercie.
Mais ce n'est pas une raison.
Jules, les larmes aux yeux, lui dit.
Si, c'en est une. Et je ne veux pas que tu vois ces... Je ne veux pas que tu touches cette... Que cette fille te touche. Ou que tu touches cette fille.
Swann le regarde bien et lui dit.
Mais tu es jaloux, ma parole.
Jules a honte.
Moi, jaloux?
Oui, toi.
Jules hausse ses épaules. Sylvain lui dit. De toute façon, je ne suis pas ta chose. Je suis libre de faire ce que je veux, non?
Jules boude.
Sylvain se lève pour sortir de la pièce.
Jules est furieux contre lui. Tape du poing sur le bras du fauteuil. J'ai perdu, c'est de ma faute. J'ai perdu. Quelle idée ai-je de lui parler et de lui faire une scène comme ça?
On a frappé à la porte.
Entrez!
C'est Marinette. Je m'en vais, monsieur. Bien! Au revoir, monsieur.
C'est ta faute à elle aussi. Je déteste cette garce. Ils sont toutes des garces. Elle veut me le prendre. Il n'a qu'à en prendre un autre. Je ne veux plus la voir. Et Sylvain, mon Dieu, il faut absolument que je me domine. Je ne veux plus me laisser aller comme ça. Il est tellement énervé qu'il sort de la pièce.
Il hésite un moment et décide qu'il n'est pas le temps d'aller voir Sylvain, qu'il rumine sa tristesse. Lui aussi, je ne dois pas être le seul à souffrir.
Il décide de marcher un peu pour se calmer. Fait un jour gris et humide. Les cloches de l'église sonnent et donnent un peu de beauté à ce décor lugubre. Certains jours, la montagne est chaude si laide qu'elle n'est belle. Il marche en broyant du noir. La terre est humide. Il fait froid. Une heure plus tard, il entre et retrouve Sylvain au salon qui lit. Il va s'asseoir à ses côtés et ne bouge pas. Sylvain fait celui qui ne le voit pas. Cela attriste encore plus Jules. Puis, au bout d'un moment, Sylvain lui demande « Ça va mieux ?» Jules fait bruit de la tête. Sylvain lui dit « Si tu veux que nous soyons bons amis, il ne faut plus que tu me fasses des scènes comme celle-là. Je suis libre et je ne t'appartiens pas. D'accord ?» Jules fait bruit de la tête. Il a très mal. Puis petit à petit, la vie reprend. On se remet à se parler, mot à mot. Cela fait mal à Jules. L'on revient ensemble et reparle. Mais Jules sent qu'entre eux, quelque chose s'est cassé, que ce ne sera jamais comme avant. Il en souffre en cachette et fait tout pour être de son avis ou de son côté. Sylvain, le doux Sylvain, a montré ses griffes pour défendre son territoire. Jules a été surpris. Il semblait si doux, si gentil. Lui sait que c'est de sa faute. J'ai découvert, montré, et qu'il était ce qu'il était et ce qu'il désirait. Il se dit qu'heureusement que Sylvain a la délicatesse de ne pas lui faire comprendre qu'il a tout compris, qu'il a tout compris de son jeu. Il se dit que pour se consoler, il aurait pu le quitter ou pour toujours être dégoûté de lui. L'impression que désormais c'est Sylvain qui tire les ficelles et qui dirige et domine. Ce n'est plus lui. Il a vaincu en se dévoilant et l'autre le domine.
Jules se sent comme un pantin qui suffit d'un coup de pied de Sylvain pour le faire dégringoler. Il se tient à carreau, mais malgré tout, il souffre. Regarde Marinette avec haine. Les jours passent et tout semble avoir été oublié, en tout cas extérieurement. Mais Jules se demande à quoi pense Sylvain. Chaque fois qu'il voit son visage, ce qui lui enlève tout le plaisir de le regarder, il n'ose pas le lui demander. L'âme de son ami, son visage, est devenu un tombeau dangereux pour lui. Ce que Jules ne comprend pas, c'est qu'il a vexé l'orgueil du jeune mâle qui se veut libre et fier de jouer avec les filles. Un jour, la neige est venue. Jules ne supporte pas cette chose froide et humide. Cela le met sur les nerfs et ne veut pas sortir. Par contre, Sylvain adore la neige. Il a demandé à son ami d'aller faire de la glissade. Comme Jules a refusé, il y est allé tout seul. Jules l'a attendu inquiet. Il est revenu dans l'après-midi, complètement mouillé et gelé. Jules l'a déshabillé, frictionné et donné un bouillon chaud. Quelle idée de se mettre dans un état pareil. Tu ferais mieux de rester au chaud à la maison. Tu savais comme c'est beau dehors. Et puis, dans la journée, le soleil tape sur la neige. Demain, je vais patiner. Marinette me prête des patins. Jules est furieux. Que fais-tu avec cette domestique? C'est pas une domestique, c'est la fille de notre propriétaire. Jules hausse ses épaules. Sylvain lui dit. Au lieu d'être jaloux parce que je m'amuse, tu n'as qu'à venir avec nous. Je teste la neige. Fallait pas venir à la montagne alors. Je ne savais pas qu'elle allait venir jusqu'ici. Et puis, c'est vrai, nous aurions dû partir pour la Grèce. Jules ne supporte pas Marinette. Chaque fois qu'il la voit, il a envie de la gifler. Cette paysanne qui s'est mise entre lui et Sylvain. Rien que pour l'embêter, il lui demande d'aller lui chercher de l'eau, du bois, de donner un coup dans les pièces du grenier, d'aller au village, lui chercher n'importe quoi, de balayer le devant de la maison ou de déneiger. Elle fait tout sans broncher. Sylvain ne se rend compte de rien, car pour lui, Marinette, ce n'est que Marinette. Un matin, Sylvain revient du lac gelé où il est allé patiner avec Marinette. Ils sont tous deux, l'un contre l'autre, et rient comme des fous. Cela fait mal à Jules. Il sent comme une complicité entre eux. Il ne se dit rien, mais se dit qu'il n'a jamais vu Sylvain avec un tel visage aussi lumineux et heureux avec lui. Après, avec moi, il est toujours triste ou a un problème. Jamais il n'a été heureux. Je ne lui sers que lorsqu'il a des ennuis. Je ne suis son confident que de ses malheurs. En ce moment, il ne s'occupe pas de moi. Je n'existe pas pour lui. Il s'aperçoit aussi qu'il rit beaucoup pour rien. Que durant le repas, il n'a jamais autant mangé. Qu'il mange constamment. Jules se dit, il est amoureux, c'est le moment bête. Et dire qu'il est tombé amoureux de cette petite bécasse. Il lui en faut peu. Moi qui le promettais au-dessus des autres, qui me disait qu'il n'était digne que des
choses les plus belles, les plus nobles, et il se choisit une petite paysanne qui n'est même pas belle ni intelligente. Il est tellement irrité contre lui que des fois, il se met malgré lui à le haïr. Oui, il hait son amour. Mais il en a honte après. Il en a honte. Mais aussi, il passe des heures enfermé à broyer du noir chez lui, dans ce chalet entouré de neige. Il pense ce qu'ils font ensemble, leur jeu, leur rire. Et lui, qui reste là, alors bien sûr, ça lui, au bout d'un moment, il est maudit. Des fois, il se demande ce qu'il fait ici, qu'il devrait partir. Ce n'est pas sa place. Ce n'est pas la place d'un Bernardin. N'a pas à être humilié. Et lorsqu'il revient, c'est pire, car il s'aperçoit qu'il ne lui demande même pas ce qu'il a fait, s'il ne s'est pas ennuyé. Non, il ne lui dit rien. C'est naturel. Il est dans sa joie et le reste du monde n'existe pas. Et Jules fait partie du reste du monde. Pauvre Jules, il n'a plus de joie. Même de le déshabiller, de le chauffer, de le servir, cela lui fait du mal. Car il s'aperçoit que Sylvain ne fait pas attention à lui. Et que si la chose avait été faite par un autre, ce serait pareil. Un matin, Jules est dans sa chambre. Il donne à Marinette le linge à laver. Une grande pile de linge avec des draps. Puis ils sortent tous deux de la pièce. Je lui dis, descendez d'abord mon linge. Après, vous viendrez prendre celui de mon ami. Il est déjà assez lourd ce que vous avez là. Bien, monsieur. Et elle s'apprête à descendre les escaliers. Jules la voit de dos. En une seconde, il la voit si petite, même fragile. Il se dit que rien pourrait la faire disparaître. Alors il se penche légèrement et la pousse légèrement. Oh! Pauvre Marinette est tombée la tête la première, emportée par le linge, et se trouve en bas des escaliers, recouverte du linge, immobile. Jules se met à crier « Marinette !» Il descend. La touche. Elle ne réagit pas. Il crie « Sylvain, Sylvain !» Sylvain court. Les voit, descend les escaliers. Se penche. Il a peur. Que s'est-il passé? Elle est tombée dans les escaliers. Je lui avais dit de faire attention avec le linge. Elle a voulu tout prendre à la fois. Elle a dû s'en mêler les pieds avec. Il faut vite appeler le médecin. Sylvain court chercher le médecin. Une heure plus tard, le médecin et le père emmènent la mère, la morte. Sylvain est effondré, s'est enfermé dans sa chambre, Jules au salon, à port de sa réaction. Il est si fragile, il risque de se laisser aller et de tomber malade. Quand ils se retrouvent, ils restent à une distance respectueuse du respect du chagrin de Sylvain. Ils ne se parlent pas. Avant d'entrer dans leur chambre, Jules, pour lui dire bonne nuit, lui dit « Je comprends ce que tu ressens. » Sylvain lui dit « Oh toi, tu ne l'aimais pas. »
Julie meurtrie, Sylvain n'accepte même pas sa compassion. Il se dit qu'il n'y a plus d'amitié pour lui, que tous les deux, c'est fini. L'enterrement a lieu avec tout le village et les deux garçons. Le père n'a aucun reproche à faire aux deux jeunes gens. Il ne lui a même pas aidé que c'est peut-être de leur faute si elle est morte. Il aurait pu penser que Jules aurait dû aider sa fille à descendre le linge. Mais non, il a l'esprit trop simple et trouve normal qu'un maître n'aide pas sa servante. Jules se demande ce qu'il va faire, ce qu'il fait ici avec Sylvain qui le déteste. Nous aurions dû partir en Grèce, il n'y aurait pas eu tous ces malheurs. Et puis en voyage on ne risque pas de s'attacher aux autres. Sylvain n'aurait pas eu quelqu'un et nous serions restés ensemble. Et puis, comme Sylvain est jeune et que souffrir seul, c'est pas le meilleur moyen. Petit à petit, il a besoin de s'épancher sur un autre, de dire sa peine. Et comme il a près de lui Jules, alors il recherche sa compagnie et lui dit ses peines. Et comme Jules a tant besoin d'être aimé par lui, que la moindre caresse, le moindre mot de lui est reçu comme une bouée de sauvetage, l'un ou l'autre accepte de se retrouver. La vie en commun reprend son rythme comme avant. Marinette, qui n'avait été qu'un entr'acte. Jules recommence à s'occuper de Sylvain et Sylvain se laisse servir sans gêne. Il n'y a plus de gêne entre eux, surtout maintenant qu'il y a eu une peine ensemble. Jules redevient heureux. Il se moque du temps, de la neige, du moment que Sylvain est près de lui. Il passe les soirées au coin du feu à se parler. Sylvain lui demande: est-ce qu'un jour je rencontrerai quelqu'un que je puisse aimer sans risque et qui m'aimera? Bien sûr, tu es jeune, tu n'as pas encore rencontré une personne qui soit suffisamment bien pour que tu puisses vraiment l'aimer. Sylvain lui dit: j'ai rencontré ta sœur et Marinette. Jules hausse ses épaules, lui dit: c'était pas vraiment le grand amour. Et qu'est-ce que tu en sais? Je lui dis: je le sais, je le sens. Le grand amour, c'est quelque chose de plus profond. Je m'en serais aperçu. Sylvain lui demande: et comment? Tu n'as jamais aimé? Je lui dis: qui te dit que je n'ai jamais aimé? Quoi? Jules soupire et lui dit: une personne est dans mon corps. Et je ne peux pas dire mon amour. Elle-même ne sait pas que je l'aime comme un fou. Pourquoi ne le dis-tu pas? Parce qu'elle ne comprendrait pas que ce serait. Et que mon amour la décevrait. Sylvain lui demande: pourquoi? Je soupire et lui dis: parce qu'il y a des amours que les gens refusent avec dégoût. Sylvain lui dit: je ne comprends pas, cette personne serait folle de te refuser. Tu es beau, tu es d'une famille respectable, sérieux, que peut-elle te reprocher? Je lui dis: justement, mon amour, c'est mon seul défaut, et c'est de l'aimer. Si elle savait que je l'aime, elle serait dégoûtée. Ne voudrait plus de moi. Sylvain lui dit: cette personne est folle. Elle est d'une méchanceté. On ne peut pas en vouloir à une personne qui vous aime. Je lui dis: ça dépend de la personne. Et que te reproche-t-elle? D'être ce que je suis. C'est-à-dire, moi,
Sylvain ne comprend pas. Il lui demande
« Et puisque cette personne est mariée ?»«
Non, elle ne l'est pas. » »«
Vous vous détestez depuis toujours ?»«
Non, nous sommes amis. » »«
Alors ?» ?»«
Si je lui disais que je l'aime, je perdrais son amitié à jamais. » Sylvain lui dit « Je ne comprends pas du tout. »
Je ne comprends pas ce qu'il pouvait
vexer cette personne,
surtout que vous êtes amis.
Est-elle libre?
Je lui dis
oui.
Je lui dis tristement,
parce que l'amour que je lui donne est un amour qu'elle ne peut accepter. C'est contre sa nature.
Sylvain lui dit. Elle est complètement folle, ton amie.
Ou compliquée.
Oui.
Moi, qui suis constamment près de toi, toi, tu ne m'as jamais parlé de ton amie.
Ce n'est pas gentil de cacher ces choses-là à son meilleur ami.
Et tu ne nous as même pas présenté.
Pourquoi ?
Je lui dis, j'ai pas besoin de vous présenter. Et puis je te jure que tu es mon meilleur ami.
Sylvain lui dit, oui, mais l'autre, tu l'aimes vraiment.
Sois pas jaloux si tu savais. Peut-être qu'un jour tu le sauras.
Quoi?
Ce qui tourmente mon corps. Si nous sommes amis, tu dois me le dire. Plus tard. Par respect à notre amitié pour toi,
Sylvain demande.
Est-ce que tu écris à ton ami?
Non, pas la peine.
Par contre, j'écris à mes parents et m'écrivent aussi.
Toujours pas de nouvelles d'Apolline,
Sylvain lui dit. Depuis que madame et madame la marquise de Saint-Véran, elle dénigre et méprise le reste du monde. Elle doit être pleine de bijoux, robes. Son mari doit la faire voyager. Il veut lui faire oublier son âge.
Je lui dis, tu as raison. Et ma sœur est une petite sotte qui ne pense qu'au luxe et à la fête.
D'ailleurs, à Paris, je me demande ce qu'elle a dû faire avec mon frère.
Jules Baillet dit
bon, on boit un dernier verre et on va se coucher.
Ils se servent un verre.
Le propriétaire leur a trouvé une autre servante, une vieille femme du village, et la vie continue.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la 35e partie. Production, mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.